Europe 1. Europe 1,
14h, 15h.
On de la traconte.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, l'histoire d'un personnage incroyable que vous connaissez sans doute et qui s'appelle Philippe Croizon. Amputé des quatre membres, les deux bras et les deux jambes, il a une pêche et une énergie vitale absolument stupéfiante qui lui ont fait traverser la Manche à la nage, relier les cinq continents à la nage, signer un Paris-Dakar en 2017 et tout un tas d'autres folies du même tonneau. Bonjour Philippe Croizon.
Bonjour.
Et vous en rigolez. En plus, votre dernier livre qui s'appelle « Pas de bras, pas de chocolat » est tout simplement un bout à bout de blagues sur votre handicap. Je vais en lire un petit bout, si vous voulez bien.
Ah bah, avec grand plaisir.
Certes, je ne peux plus me moucher du coude, ni me badigeonner l'épaule de crème solaire. Je suis incapable de décortiquer un tourteau ou de me déhancher sous une boule à facettes dans la danse des canards. Je suis privé de passeport biométrique avec empreinte digitale. Mais il y a quelque chose que personne ne m'enlèvera jamais, pas même les fiers à bras du politiquement correct. Ce sont mes blagues de manchot. Manchot.
Manchot, exactement. Que du bonheur, mais voilà, il y a beaucoup de vannes là-dessus.
Donc si dans mon histoire je glisse 2-3 blagues de mauvais goût...
Avec grand plaisir, au contraire.
Alors je vais oser. C'est un autre livre qui m'a inspiré l'histoire que je vais raconter aujourd'hui, c'est votre premier livre, paru en 2006 chez Jean-Claude Gazevitch et qu'on retrouve aujourd'hui dans la collection Pocket, livre de poche. J'ai décidé de vivre. Voici donc votre histoire, ce qui vous est arrivé et comment vous êtes remonté. C'est une histoire que j'ai écrite avec Quentin Mouchel, réalisation Céline Lebras.
14h, 15h,
on de la traconte sur Europe 1.
À la base, Philippe Croizon, c'est pas un type dont on raconte l'histoire. C'est un type sans histoire. En 1994, il a 26 ans, il vit avec Muriel depuis ses 18 ans. Ils se sont mariés l'année d'avant, ils ont un petit garçon de 7 ans qui s'appelle Jérémy, et Muriel est enceinte du second, enceinte de 7 mois. Voilà. Ils habitent à Saint-Rémy-sur-Creuse, dans la Vienne, et comme Philippe vient de trouver enfin un boulot stable de métallo dans une fonderie, ils ont acheté une maison et donc ils déménagent. Je vous l'avais dit, hein, jusque-là, il n'y a pas d'histoire. Sauf que la vie, cette chienne de vie, est capable en 2 secondes de vous transformer un type sans histoire en un héros moderne. Et voilà comment. On est donc en mars 1994, et je vous l'ai dit, les Croizons déménagent. Alain, le beau-frère, est là, Odile, la belle-sœur, ils sont venus donner un coup de main. Ça déconne, ça rigole, et en moins de 2, le camion est plein à craquer. Ah ! Il manque juste un truc. L'antenne de télé. Pas question de la laisser au suivant.
Je vais la démonter, va. T'inquiète pas. Il n'y en a pas pour longtemps.
Et donc Philippe attrape une échelle, il la déploie au maximum, il grimpe, et comme il est prudent, il s'attache à la cheminée avec une corde. Et les deux pieds sur le dernier barreau, il se met à déboulonner l'antenne de télé. D'en bas, son beau-frère le chambre.
Alors mon vieux, tu te prends pour Tarzan sur ton échelle? T'es sûr que ta sangle va pas foutre le camp au moins? Je suis collé à la cheminée comme une abeille à son pot de miel. Y a aucun risque.
Et ça y est, il a déboulonné cette fichue antenne. Et maintenant, faut redescendre. Et là, c'est une autre histoire. Le machin fait 2 mètres, ça pèse un âne mort. À un moment donné, il vacille, et pour se rattraper, il appuie ses tibias sur l'échelle. Et là, un éclair, une détonation, et Philippe se retrouve accroché dans le vide comme un pantin désarticulé. Il vient de se faire foudroyer, parce qu'à 1,30 m au-dessus de la maison, il y a une ligne à haute tension qui vient de former un arc électrique. Avec l'antenne. Tant qu'il s'appuyait sur ses chaussures en caoutchouc, ça allait, mais quand il a posé les tibias sur l'échelle, paf ! Il a pris, comme l'éclair d'un orage, 20 000 volts, le courant a sauté, et c'est lui qui a joué le fusible. Il est mort ! Le cœur ne peut pas supporter un choc pareil, il est mort ! Mais la miracle, nouvelle détonation.
Le courant s'est remis en marche automatiquement et il a pris une deuxième décharge. Et le miracle, c'est que l'électrochoc l'a ramené à la vie. Il a relancé le cœur. C'est dingue. Mais c'est pas fini. C'est loin d'être fini. Il sent le courant qui gronde dans son corps, dans ses os. Un filet de sang coule de ses lèvres et il hurle.
« Je veux pas mourir! Je veux pas mourir !»
Et là, le courant se coupe à nouveau quelques secondes et puis il revient. Et là, ça dure. Ça dure des minutes qui durent des siècles. J'ai l'impression de n'être plus rien, d'être réduit à ce bruit assourdissant qui a investi mon corps et le consume. Le malheur veut que je sois resté lucide. Mon esprit et mon corps sont désormais scindés, déconnectés l'un de l'autre. Je me vois brûler. Une boule de feu poursuit en moi sa lente progression et me ronge morceau par morceau. La torture est absolue. Il est en train de brûler. Et d'ailleurs, son jean s'enflamme. Un voisin enfile de grosses godasses et prend des gants en caoutchouc. Il attrape un extincteur. Il grimpe sur l'échelle. Il éteint le feu, mais pas le courant. Et ça dure. Et ça dure.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui l'histoire de Philippe Croizon qui a traversé la Manche à la nage et ensuite relié, toujours à la nage, les cinq continents, qui a fini 48e du Paris-Dakar en 2017 et qui pourtant n'a ni bras ni jambes. Et je vous raconte aujourd'hui comment il en est arrivé là, comment il a perdu ses quatre membres et comment il s'est reconstruit jusqu'à devenir un athlète de haut niveau. Ça se passe un jour où il déménage, en mars 1994. Il veut démonter lui-même l'antenne sur le toit. Au-dessus, il y a une ligne à haute tension. Ça fait un arc électrique avec l'antenne. Il est foudroyé, mort. Puis son cœur redémarre grâce à un deuxième choc électrique. Il hurle, troisième décharge. Il prend feu. Un de ses voisins réussit à éteindre le feu, mais le courant, lui, passe toujours à travers le corps de Philippe. Nous en étions là. Et ça dure 20 minutes, vous entendez ? 20 minutes à rôtir, à se consumer de l'intérieur, jusqu'à ce qu'on parvienne à couper le courant. Et Philippe qui souffre le martyre. Les gens qui sont là, son père, son frère qui viennent d'arriver, ne donnent pas cher de sa peau. Vous vous rendez compte ? Il a pris du 20 000 volts pendant 20 minutes. Les secours arrivent sur place. Et une ambulance le conduit au terrain de foot où un hélicoptère a pu se poser. Et on l'emmène au centre hospitalier de Tours et lui trouve encore la force de faire une blague à son frère qui l'accompagne.
Tu remercieras les installateurs de ma part !
Et juste après, il sent de l'agitation autour de lui et il entend
« Vite ! Massage cardiaque ! Il fait un arrêt !»
Pendant le transport en hélico, il en fait deux arrêts cardiaques. Et deux fois, grâce au défibrillateur, son cœur repart. Il veut vivre, le diable. Il veut vivre. Mais sur le papier, il y a zéro chance. Il est carbonisé de l'intérieur. Et le voilà au service des grands brûlés à Tours, dans une chambre stérile. Quatre jours après l'accident, un médecin vient voir la famille.
Bien. Les brûlures occasionnées par l'accident sont plus graves que des brûlures au troisième degré. On parle là de carbonisation. Les lésions sont importantes et en tout état de cause, il va falloir l'amputer de son avant-bras droit.
Philippe est dans le coltard à cause de la morphine, mais il y a un moment où il comprend. Il comprend ce que ça signifie. On va lui couper le bras dont il se sert le plus, celui avec lequel il tient son petit Jérémy par la main, celui avec lequel il mange. Ça le mine, mais s'il savait ce qu'il attend... On l'ampute donc de l'avant-bras droit. Et 3 jours plus tard, de l'avant-bras gauche. Et de la jambe droite, juste au-dessus du genou. Lui, il est dans les vapes, il ne saisit pas l'énormité de ce qui est en train de se passer. Il n'a plus de bras, et il ne lui reste qu'une jambe. Et quand vous demandez aux médecins, ils ne sont toujours pas capables de jurer qu'il va survivre. Son corps est carbonisé de l'intérieur. Et la carbonisation, ça produit des toxines, un poison que les reins ne savent pas filtrer. Alors on le met sous dialyse, et il survit. Mais les premières semaines, la morphine et les calmants, il est dans le potage. Il ne réalise pas. C'est quand on diminue les doses, au bout d'un mois, que le ciel lui tombe sur la tête. On se sent glisser vers la folie. Le désir intense que le cerveau s'arrête de fonctionner, mais cela n'arrive pas. Alors émerge l'envie profonde, vitale, de mourir, seul moyen d'arrêter la souffrance. Philippe est au fond du trou. Il ne se voit plus d'avenir. Sa famille vient le voir tous les jours, sa femme, son fils, il lui parle à travers un interphone, sa chambre est stérile, il est derrière une vitre. Pour eux aussi c'est dur, hein. Ils font ce qu'ils peuvent pour ne pas s'effondrer, pour lui faire passer un peu de force. À ce stade, il lui reste une jambe, la gauche, mais pas pour longtemps. Un matin, les médecins débarquent.
Votre jambe gauche, vous voyez là, le petit point noir au niveau du tibia. Le courant est passé par là. Elle a été carbonisée, elle aussi. Il va falloir l'amputer.
Philippe se dit, au point où j'en suis. Et le voilà amputé des 4 membres.
Un jour, son copain Jackie vient le voir. Et avec lui, Philippe craque.
Je suis foutu. T'entends ? Je suis foutu. Je veux mourir, Jackie. C'est la seule solution.
Philippe, tu vois, moi, j'ai perdu mon père très tôt. Je sais ce que c'est que de ne pas avoir de papa. Alors tu penses à Jérémy ? Tu penses aux futurs bébés ? Ils ont besoin d'un père.
Eh bien, c'est exactement ce qu'il fallait lui dire. Jackie a trouvé les bons mots, ouais. Les gamins, vivre pour les gamins, ça, ça lui parle. Sacré Jackie.
À partir de ce moment-là, Philippe change radicalement de perspective. C'est brutal, c'est fulgurant. Un changement de pied, il me pardonnera le jeu de mots, tellement radical qu'il en deviendrait inquiétant. Est-ce qu'il ne serait pas en train de partir en sucette, le Philippe ? De devenir dingo ? Remarquez, ça se comprendrait.
Mais non, mentalement, il est déjà après. Par exemple, il veut savoir ce qu'il se fait en matière de prothèse. Et c'est là, à ce moment-là, sur son lit d'hôpital, qu'il évoque la première fois l'idée de traverser la Manche à la nage. Ça lui est inspiré par un reportage qu'il voit à la télé.
Hey, pourquoi pas moi ?
Ça semble délirant, hein ? Mais ça lui donne de la perspective. Ça lui fait du bien. Il parle aussi déjà de reconduire une voiture. Tout ça, je ne vous raconte pas de blagues, hein. Quelques semaines après son accident et ses 4 amputations. «
À peu près à cette époque, derrière la vitre, son fils Jérémy, qui a 7 ans, lui pose une drôle de question.
Papa, je pourrais voir tes blessures ?
Philippe hésite, et puis il accepte. À mon grand soulagement, Jérémy réagit très bien. Il ne semble pas du tout choqué et me promet qu'il continuera à bien travailler à l'école et que cela ne l'empêchera pas de m'aider à manger. Je reçois ce jour-là une immense bouffée de chaleur. Deux mois et demi après l'accident, Philippe est toujours derrière sa vitre. Et là arrive un événement considérable. Sa femme, Muriel, accouche de leur petit deuxième, Grégory. Le père de Philippe débarque tout de suite à l'hôpital avec une photo. Et Philippe fond en larmes, des larmes de joie. Et une infirmière fait péter le champagne et elle lui humecte un peu les lèvres. Légère entorse à la stérilité de sa chambre. Et puis un jour, ils quittent cette chambre et ils peuvent enfin s'embrasser. Sa femme, ses enfants, ses amis, ses parents, c'est un moment très fort qui dure pas longtemps. Hein. Il doit retourner en chambre stérile, mais ça lui fait du bien. Et 3 mois après son accident, le 6 juin, il quitte l'hôpital pour le centre de rééducation de Valenton, dans le Val-de-Marne, près de Paris. Et là, vous allez voir ce que c'est qu'un type qui n'en veut.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui l'histoire de Philippe Croizon qui sera là tout à l'heure, frappé en 1994 par un terrible accident. Il est en train de démonter son antenne sur le toit et il est foudroyé par un arc électrique provoqué par une ligne à haute tension. Son corps est carbonisé, il faut l'amputer des deux bras et des deux jambes. Dans les semaines qui suivent, il trouve une seule raison de vivre, ses enfants. Et 3 mois après l'accident, il quitte l'hôpital pour un centre de rééducation. Avec un petit pincement au cœur, figurez-vous. C'était son cocon douillet, c'était protecteur. Et là, il débarque dans un centre de rééducation à Valenton, dans le Val-de-Marne, près de Paris, et ça n'est plus la même limonade. Ça lui fait l'effet d'un ghetto, pour handicapés. Et ça plombe un peu sa motivation. Et pourtant, il sait que c'est incontournable. Il vient de passer 3 mois à l'horizontale, il doit se réhabituer à la position verticale et il doit rééduquer ses muscles s'il veut porter des prothèses. Mais c'est dur. Et les premiers jours, il craque. Et il craque devant Muriel, sa femme.
J'y arrive pas, Muriel. Je me sens abandonné. Putain ! J'y arrive pas, je te dis !
Philippe a le moral dans les chaussettes. Lol. Et les médecins, évidemment, le remarquent et le médecin-chef leur propose à tous les deux, Philippe et Muriel, une solution.
Écoutez, Philippe, si vous n'y mettez pas plus de cœur, à ce train-là, votre fils va marcher avant vous. Alors j'ai pensé que peut-être, Muriel, vous pourriez venir séjourner au centre, le temps de votre congé maternité. Vous partageriez la chambre de Philippe.
Philippe est aux anges et il se fait une promesse. Il marchera avant son fils. On est en juin. Eh bien, il marchera au mois d'août. Foi de Croizon. Il marchera pour l'anniversaire de mariage de ses grands-parents. Et comme ça, il retrouve de la volonté, de l'énergie. Et tant qu'à faire, on lui baisse le traitement antidépresseur qui est censé l'empêcher de craquer. Il a besoin de craquer, de temps en temps. C'est comme ça qu'il avance. Au début, il s'agit surtout de le remettre en position verticale. On le sangle sur une planche, on incline la planche petit à petit. 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi. Ça va.
Mais il y a des moments de cafard, ça c'est inévitable. Et comme Muriel est là, au pied du lit, eh ben c'est elle qui encaisse.
J'en peux plus, putain, Muriel! Je peux pas vivre dans cette condition. Je veux mourir.
Et cette fois, Muriel lui rentre dedans. Elle ouvre la fenêtre.
Eh ben vas-y, saute, puisque tu penses qu'à toi, hein? Tu penses à ma souffrance, à moi? Qu'est-ce qu'on va devenir si t'es plus là, moi et les petits?
Ils se regardent en silence. Ils fondent en larmes. Et Muriel le prend dans ses bras. Muriel m'a tenu tête. Elle ne m'a pas plaint. Elle a eu diablement raison. Ça n'est pas parce qu'on est handicapé que nos défauts s'effacent d'un coup de baguette magique. Il faut donc nous traiter de la même façon qu'avant. Si nous sommes infects, il faut nous le dire. Ça ne peut que nous aider, nous relancer dans notre lutte. Et donc, petit à petit, Philippe s'approprie ce nouveau corps. Il apprend notamment à se servir de ses moignons, à découper du bois, à faire de la peinture. Il se donne à fond. Puis un matin de juillet 1994, 5 mois après l'accident, se produit un événement dont peut-être seuls les garçons peuvent pleinement apprécier la valeur. Il a la gaule, il a la trique. Parce que ça, c'était un souci, c'était un gros souci. Il n'était pas certain de rebander un jour. Et ça marche, et il va pouvoir refaire l'amour. Et c'est bon pour le moral. Vous vous souvenez que Philippe s'était donné pour objectif de remarcher en août? Eh bien, on y est, en août. Ça fait 3 mois qu'il fait de la rééducation et il va tenter de faire son premier pas. Il enfile des prothèses qu'on appelle des monoblocs. Ce ne sont pas des prothèses définitives, hein, c'est lourd. Ça n'est absolument pas fait pour marcher. Muriel filme. Et tout le service est là, hein. Il y a les kinés, les infirmières, tous les résidents. On veut le voir. Et il se lance, un kiné de chaque côté pour l'épauler au cas où.
1, 2, 3, allez, on y va.
Et ça y est, il est debout, mais il perd l'équilibre et il se rassoit. Et puis il recommence 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il transpire comme un boxeur, et comme un boxeur, on lui éponge le front, et puis à un moment, il fait son premier pas. Et les gens autour applaudissent. Alors les jours qui suivent, il s'entraîne comme un forcené. Et au bout d'une semaine, il marche comme un canard, mais il marche tout seul. Et à l'anniversaire de mariage des grands-parents, personne n'est au courant. Tout le monde s'attend à le voir débarquer en fauteuil électrique. Quand il arrive dans la salle des fêtes, juché sur ses prothèses monoblocs, les gens sont scotchés. Et passé les fêtes surprises, il se jette dans ses bras. Eh bien maintenant, étape suivante. Parce que il ne peut pas vivre durablement avec ses machins tout raides, au bout des moignons.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui l'histoire de Philippe Croison qui sera avec moi dans un instant. En 1994, Philippe est frappé par un accident terrible. Il est en train de démonter son antenne sur le toit et il est foudroyé par un arc électrique provoqué par une ligne à haute tension. Son corps est carbonisé et il faut l'amputer des 2 bras et des 2 jambes. Dans les semaines qui suivent, il trouve une raison de vivre, ses enfants. Et 5 mois après l'accident, il parvient à faire ses premiers pas avec des prothèses. Alors maintenant, voyons ce qu'il peut faire au niveau des bras. Pour les bras, il existe des prothèses qu'on appelle myoélectriques. C'est une technologie de pointe. Il s'agit d'utiliser les muscles qui vont jusqu'au bout des moignons pour déclencher une impulsion électrique qui va faire bouger la prothèse. Mais ça, c'est sur le papier. Parce qu'en pratique, Philippe a un mal fou à doser la puissance. C'est très compliqué à gérer. Et donc, au final, il s'en sert, hein, mais pas tout le temps. Il les enlève souvent. Mais c'est ça qui lui permet de passer à la prochaine étape. Conduire. En septembre, 6 mois après le drame, Philippe trouve une voiture adaptée avec un joystick et la reconnaissance vocale. Il prend des cours et c'est bon. Ça, c'est fait. Mais bon, Philippe n'est pas Crésus, hein. Tout ça, la voiture, le fauteuil, les prothèses, les aménagements qu'il va falloir faire chez lui, ça coûte très cher. Et c'est pas pris en charge. Et donc en septembre, ses parents créent l'association d'aide et de soutien à Philippe pour recueillir des dons. Mois après l'accident, fin 1995, Philippe peut enfin retourner vivre chez lui. On va dire les choses franchement. Les débuts sont difficiles. Il gamberge sur son rôle de père, sur son rôle de chef de famille. Et pour tout dire, il s'ennuie, il s'emmerde en attendant que Muriel rentre du travail. Et quand elle rentre, eh bien il est infect avec elle. Infect. Les années passent, il se reconstruit psychiquement, mais 7 ans après le drame, à force d'être infect, Muriel le quitte. Et là, tout son monde s'écroule. Ce soir-là, il s'enfile une bouteille de martini, il va sur un pont, il est sur le point de sauter. C'est Jérémy qui appelle. Il comprend tout de suite que quelque chose ne va pas. Il lui envoie les secours et voilà, il va vivre. Philippe met 3 ans à se remettre du départ de Muriel. 3 ans. Et puis un jour, il se lance sur les réseaux de l'amour. Il se lance sur Mythique. Ah ! Il en passe du temps sur Mythique. C'est addictif, ce genre de truc. Au début, sa stratégie est d'éluder la question du handicap. Quand il branche sa webcam, il s'arrange pour qu'on ne voit que sa bonne bouille. Et puis il annonce la couleur que quand ça accroche.
Ouais, en fait, je t'ai pas dit, mais je suis handicapé. J'ai plus de bras et plus de jambes.
Très mauvaise stratégie. Alors finalement, il annonce la couleur d'entrée. Il montre tout à la webcam, tel qu'il est. Et là, ça marche. Il fait une première rencontre. Oh, c'est pas l'amour avec un grand A. Ça ne dure que quelques mois. Mais il sait qu'il peut aimer à nouveau et qu'il peut être aimé. Et quelques mois plus tard, il rencontre Susanna. Et ça, ça lui donne des ailes. À partir de ce moment-là, Philippe se lance des défis de plus en plus ambitieux. Il commence par un saut en parachute à 4000 mètres. Et en 2008, il annonce qu'il veut réaliser son vieux fantasme. Cette idée qui lui trotte dans la tête depuis son séjour au service des Grands Brûlés. Il y a 14 ans, il va traverser la Manche à la nage. Sauf qu'à ce moment-là, il n'a jamais fait de sport. Il est gras comme un lardon. Mais à Croison, rien n'est impossible. Pendant 2 ans, il s'entraîne comme un fou. 35 heures par semaine, 280 km de nage en piscine, en lac, en mer. Et le 18 septembre 2010, 16 ans après le drame, le voilà qui part de Folkestone, en Angleterre, qui nage 13 heures et 26 minutes et qui arrive au Cap Griné. Et là-haut, sur la falaise, il entend crier.
« Papa ! Papa, t'es le plus fort du monde !»
Et en retour, il crie.
« Je vous aime !
Je vous aime.
Pardon, Philippe Croison, de vous avoir fait revivre tout ça. Je me rends compte que, sans doute, vous avez tourné la page, que ce livre, il est loin, loin, loin.
Oui. C'est dur, hein.
C'est dur ?
Ouais, c'est dur. C'est dur, mais... ce qui est dur, c'est la fin, là. Mes deux garçons qui me trouvent sur Cap Griné, quoi. C'est juste extraordinaire. Ben, imaginez, il y a 150 personnes qui me cherchent. On est 12 nageurs à quitter les côtes anglaises. Cette journée-là, on est 4 à réussir. Et il y a un nageur valide qui arrive à 21h26 à droite du Cap Griné. Moi, j'arrive à gauche du Cap Griné. Et toute ma famille, mes amis, tout le monde part de l'autre côté, à l'opposé.
Sauf vos fils.
Sauf mes deux garçons, quoi. Leur grand-père l'engueule, les engueule. Dit, non, vous ne partez pas du bon côté, revenez, c'est trop dangereux. Et eux, ils continuent leur route et c'est eux qui me trouvent. En pleine nuit, en pleine tempête, c'est mes deux garçons qui me trouvent. Donc, c'est le destin et c'est.
Signe parce que c'est pour eux que vous êtes là.
Ah, bah, complètement, ouais. Et c'est eux qui me trouvent.
Et c'est eux qui
me trouvent. On l'aurait écrit, ça ne serait jamais réalisé, quoi. Ouais, c'est bizarre hein, d'écouter Christophe Ondelat qui raconte votre histoire et.
Et de se faire émouvoir par sa propre histoire.
Non, mais c'est une torture.
Pardon.
C'est une torture agréable parce que d'être avec vous aujourd'hui et puis, je sais pas, de partager avec les auditeurs une expérience de vie et de dire que c'est jouable. C'est mon leitmotiv aujourd'hui. C'est de dire que tout est possible.
Je vais vous dire ce que j'ai aimé dans cette histoire tout le temps que je l'ai écrite, c'est-à-dire en gros pendant 7 à 8 heures. Hein. J'ai travaillé hier soir là-dessus et puis ce matin. On y retrouve votre pêche. On y retrouve votre optimisme qui est ce qui vous caractérise aujourd'hui. Mais j'ai aimé que vous n'éludiez pas les moments de déprime, les angoisses, l'envie de mourir, vos tentatives de suicide.
Ouais, complètement. Enfin, c'est hyper important. Moi, quand j'ai écrit ce livre, le premier livre, j'ai décidé de vivre. J'ai reçu une reconnaissance vocale pour Noël par mes parents. Et je dis, mais je vais faire quoi avec ça pour l'ordinateur ? Et je vais écrire mon histoire pour mes garçons. J'imaginais même pas écrire un livre. Je voulais juste écrire l'histoire pour que mes deux garçons sachent ce qui s'était passé. Ouais. Et c'est après que c'est devenu un livre malgré moi. Parce qu'on m'a pris le manuscrit, quelqu'un l'a édité, c'est devenu un livre. Et j'en étais content. Et après, j'étais fier que des gens puissent prendre ce livre et l'utiliser pour des gens qui rentrent dans l'univers du handicap. Pour dire, ok, il y a des... Oh la vache.
Pour les paras,
ouais,
pour voilà. les
Exactement,
tétras,
il y a des passages. Oh la vache, il y a des passages à passer.
Ouais.
Les passages sont durs, ils sont difficiles. Que ce soit pour nous ou pour les accompagnants, hein,
ouais.
pour la famille. Parce que quand on parle d'un accident... C'est pas que la personne qui a eu l'accident, c'est un tsunami pour les parents, pour la ouais. famille, pour les amis. Plus personne ne sait comment interpréter la personne.
Mais on peut pas raconter l'histoire qu'en montrant ce qui vous a guidé, ce qui vous a projeté.
Non.
Il faut aussi dire qu'il y a eu des passages à vide. D'ailleurs, il s'est écoulé tellement de temps, 16 ans entre l'idée de traverser la Manche
ouais.
et le moment où vous le faites. Et d'ailleurs, le livre ne raconte pas tout ce qui se passe pendant ces 16 ans.
Non, je le raconte un peu plus dans le troisième livre qui s'appelle « Plus fort la vie ». Là, je raconte un petit peu plus ce parcours-là où je vais végéter dans mon canapé. Quoi. C'est ce que j'explique dans ce livre-là. Je vais végéter dans son canapé, je vais attendre. Je ne sais pas quelle va être ma vie, je tâtonne, je vais mettre fin à mes jours à deux reprises. Enfin, je vais tenter, du moins. C'est ce que j'explique dans ce livre-là. C'est, dans ma vie, il y a deux fois où j'ai reconnu le renoncement et l'échec. C'est quand j'ai voulu mettre fin à mes jours. Et tant mieux. Tant mieux, parce que ça aussi, c'était un objectif. Bizarrement, on se construit tout doucement cet objectif-là pendant 7 ans. Et quand votre épouse vous dit « je vais partir », eh ben on se met en action. On reste calme, on reste zen. On sait que c'est à nous de partir, c'est pas à eux.
Ouais.
Bizarrement, et après, grâce au psy, j'ai réussi à me reconstruire et comprendre que c'était vraiment une bêtise, mais sur le coup, on peut pas s'arrêter. Il n'y a pas un geste d'égoïste. On aime ses enfants, on aime sa famille. On sait qu'on est en train de le faire, mais on peut pas s'arrêter.
Vous pensez que votre histoire peut servir à d'autres qui souffrent? Vous avez parlé à l'instant des gens qui entrent dans le handicap, mais au fond... Ce sont toutes les tuiles de la vie qui peuvent être comparées à ce que vous avez vécu. Est-ce que vous avez la preuve que votre histoire peut servir à quelqu'un d'autre ?
Oh, il y en a plein. Il y en a plein. J'ai mon petit mini-moi, par exemple, Théo Curin, qui a été amputé des 4 membres à l'âge de 6 ans. Un petit garçon extraordinaire. Il avait peur du handicap, ses parents aussi. Et après le livre, j'ai décidé de lui. Ils m'ont appelé. Et aujourd'hui, c'est un athlète de haut niveau. Tout le monde connaît un petit peu Théo Curin. Et c'est devenu un athlète, un sportif de haut niveau dans la natation. Il y a plein d'exemples comme ça, mais que ce soit valide ou handicapé. Enfin, on a tous besoin, à un moment donné, de se dire, mais si lui, il a réussi, moi aussi, je peux réussir mon parcours de vie. Je ne dis pas de traverser la Manche. Hein. Aujourd'hui, j'aime à dire que je suis fier de ce que j'ai réalisé. Ouais. J'en suis même fier à 1000% parce que j'aime ma vie d'aujourd'hui, parce que j'en ai fait quelque chose. Il a fallu du temps.
On va marquer une première pause, Philippe Croison, dans cette histoire et revenir pour parler de Jackie. A tout de suite.
Christophe Ondelat vous raconte aujourd'hui l'histoire de Philippe Croizon, amputé des quatre membres, qui a réalisé bien plus d'un exploit, comme traverser la Manche en 2010 ou encore de faire le Paris-Dakar en 2017.
Je vous ai raconté aujourd'hui l'histoire de Philippe Croizon, amputé des quatre membres après une électrocution mouse, qui a d'abord eu envie de mourir et qui choisit de vivre pour ses deux enfants. C'est une histoire que j'ai écrite à partir de son livre « J'ai décidé de vivre » que vous retrouverez aujourd'hui en livre de poche chez Pocket. Philippe, il y a un déclencheur dans votre histoire qui vient assez tôt. C'est un copain d'avant l'accident qui s'appelle Jackie et qui vous dit très exactement ce que vous aviez besoin d'entendre. Vous voulez mourir, vous le lui dites. Et lui, il vous dit « T'as pensé à tes fils. Ils ont besoin de toi. Ouais. » C'est ce que vous aviez besoin d'entendre.
Exactement, c'était la phrase, la phrase qui va déclencher le retour à la vie. Parce que juste avant, pendant plusieurs jours, mon père tente sa chance, ma mère, mon frère, mon épouse, tout le monde vient tenter sa chance pour essayer d'avoir la petite phrase, la petite étincelle qui va vous ramener à la vie. Et c'est lui qui me dit, écoute, moi j'ai perdu mon papa très jeune, toi t'es encore vivant mon gars, il y a Jérémy qui t'attend, il y a Grégory, Grégory vient de naître, il a besoin de toi mon gars, ils vont avoir besoin d'un papa. Et moi, c'est encore une nouvelle fois un coup de jeu, mais virtuel cette fois-ci, qui me ramène à la vie. Je dis, ouais, même si je suis un papa comme ça, je peux encore dire, va ranger ta chambre. Et donc, je décide de vivre.
Quelle sorte de bonhomme est-ce que vous étiez avant l'accident? Est-ce que vous étiez du genre à vous noyer dans un petit souci, dans une petite contrariété? Ou est-ce que déjà, vous étiez un type qui met les problèmes de côté pour tracer?
On va dire, je mettais plus... pas les problèmes de côté, je les prenais à bras-le-corps et je disais, il faut trouver une solution.
Vous étiez
un bout en train. Ouais, j'étais un battant, j'étais un bout en train. J'organisais tous les mariages de la famille. J'aimais vraiment ça, j'aimais organiser les fêtes, ainsi de suite.
Un leader
pour moi-même.
Pour la famille, pour la bande.
Pour l'amusement. Et avant de rentrer aux fonderies, avant d'être militaire, j'étais en échec scolaire, j'étais dyslexique sévère, donc j'arrivais pas à avancer à l'école. Et quand je suis rentré ouvrier métallurgiste, j'ai repris des études. Je me suis dit, mais je peux pas rester comme ça. J'ai repris mes études, j'ai eu mon diplôme, et quelques semaines après, j'ai eu mon accident. Donc il fallait tout recommencer encore une nouvelle fois.
J'ai adoré évidemment l'épisode de la gaule matinale, parce que c'est bien de parler de ça, parce que c'est la première question, paraît-il, que se posent tous les handicapés, notamment les paraplégiques, les tétraplégiques, qui n'ont plus de capacité musculaire, qui donc n'ont plus d'érection, et qui se disent « est-ce que je vais pouvoir ?»
Qui n'ont plus l'instrument de partage dans l'absolu.
Ouais.
Parce qu'avoir une relation amoureuse, c'est le moment de partage absolu, c'est le moment de bonheur. Voilà, c'est quelque chose d'hyper important dans un couple ou même dans la vie de tous les jours. Donc, un matin, ouais, effectivement, je me réveille et je vois qu'elle est là et je dis à Muriel, je dis, il y a quelqu'un qui veut te dire bonjour. Ça, je m'en souviendrai toujours de cette phrase parce que c'est juste extraordinaire. C'est une joie intense de dire, waouh,
ouais.
Je ne suis pas handicapé jusqu'au bout, quoi. On m'en a coupé 4 sur 5 seulement.
Ça vous surprend aujourd'hui encore qu'une femme veuille faire l'amour avec quelqu'un d'aussi abîmé que vous?
Après, c'est une question de personnalité, je pense. C'est pas parce qu'il manque de bras et de jambes qu'on peut pas séduire. C'est pas parce qu'on est dans un fauteuil roulant qu'on peut pas séduire. C'est pas parce qu'il nous arrive une tuile monstrueuse qu'on peut pas séduire. C'est pas vrai, ça. Ça, c'est pas vrai. C'est la personnalité. C'est ce que tu es au fond de toi, ce que tu as envie de transpirer auprès de la personne avec qui tu vis. De avoir ce moment de partage. Et ça, c'est juste...
Faut 10 ans pour comprendre ça, à peu près. Plus que
après,
ça.
Après, j'espère qu'il faut moins pour certaines personnes. Mais moi, il m'a fallu 10 ans, ouais. 10 ans à VGT et à me poser énormément de questions dans ma vie, ouais. À ne rien faire pendant 10 ans.
Ouais.
À être dans mon canapé, à regarder la fenêtre, la télévision.
Alors, la méthode Croizon, on l'aperçoit dès l'épisode de l'anniversaire de mariage des grands-parents. Parce qu'on voit bien que ce qui marche chez vous, c'est je me fixe un objectif. Je me fixe une date.
Complètement.
Et on y va.
Mais c'est surtout pour continuer à vivre. C'est ça le plus important, c'est de se fixer un objectif pour continuer à vivre. S'il n'y a pas d'objectif, il n'y a rien. L'objectif de remarcher, c'est pour continuer à vivre. L'objectif d'être devant ma grand-mère, parce que ma grand-mère m'a aussi élevé. C'était, pour moi, ma grand-mère, c'était mon pilier, c'était mon rock dans ma famille. C'était vraiment quelque chose de fort. Et waouh, pardon.
Oh là là, il y a l'émotion qui monte.
Ouais, parce que je l'aimais très fort, ma grand-mère. Et donc, je vais être debout pour elle, quoi. Mon objectif, c'est qu'il faut que je sois debout pour elle. Et les 50 ans de mariage font que je serai debout pour elle. Donc, il peut se passer n'importe quoi, un tremblement de terre, mais je serai debout pour elle. Et quand c'est les 50 ans de mariage, j'arrive en ambulance. Personne n'est au courant que j'arrive. On me met ces prothèses monstrueuses. Je me mets devant la porte, les deux portes s'ouvrent. Et je rentre en marchant en canard. Mon père me tient à côté, mon frère de l'autre, pour pas que je tombe. Et je vois ma grand-mère en larmes et je fonce sur elle. Et j'ai réussi mon premier pari dans ma vie, quoi. Et je me dis, mais ça veut dire que l'impossible, c'est juste nous.
Et donc la méthode, c'est toujours celle que vous appliquez aujourd'hui.
Toujours pareil.
Ça marche pour le Paris-Dakar, ça marche pour la plongée sous-marine, ça marche. Vous allez faire un one-man show bientôt, je crois.
Je suis en écriture avec Jérémy Ferrari. À force de faire des conférences, je fais énormément de conférences maintenant en entreprise, dans les municipalités. Et j'ai fait une grosse conférence à Bercy. Et il y avait des producteurs, ils m'ont dit « mais il faut que tu montes sur scène, toi, c'est pas possible ». Et avec Jérémy, on avait fait beaucoup de bêtises déjà avant. On avait tourné pour le Honda Show, pour TF1, pas mal de choses. Et j'ai dit à Jérémy, j'aimerais bien faire le one man. Et tout de suite, il m'a dit, mais il n'a même pas réfléchi une seconde. Hein. Il m'a dit, allez, on y va. Donc ça y est, on est dans l'écriture et ça sera pour septembre-octobre 2019, j'espère. C'est mon nouveau défi.
Et donc, d'ici là, c'est 100% pour ça.
C'est travail. Vous voyez, j'avais une chronique sur France 5 comme magazine de la santé, chronique sur le handicap. Ça fait 6 ans que j'avais cette chronique. J'ai arrêté ma chronique pour vraiment me consacrer à mon nouveau défi. C'est l'objectif.
Ouais. Et après, il y en aura un autre et ainsi de suite, quoi.
Je fais ce que j'aime, ce que j'ai envie de faire. C'est pas un défi pour un défi, c'est juste parce que j'ai envie. Il n'y a pas de limite aujourd'hui.
On va marquer une nouvelle pause, Philippe Croizon. Et je rappelle le titre de ce livre qu'on trouve toujours en livre de poche chez Pocket qui s'appelle « J'ai décidé de vivre ». A tout de suite.
Jusqu'à 15h, vous êtes avec Christophe Ondelat pour écouter l'histoire pleine d'espoir de Philippe Croizon qui est justement présent sur Europe 1.
Je vous ai raconté aujourd'hui l'histoire de Philippe Croizon, amputé des quatre membres après une électrocution énorme, qui d'abord a envie de mourir, puis qui choisit de vivre pour ses deux enfants. Et c'est une histoire que j'ai écrite à partir du livre que vous avez écrit, votre premier livre, Philippe, « J'ai décidé de vivre », qu'on trouve aujourd'hui chez Pocket en livre de poche. La rencontre avec Susanna sur Mythique est un épisode très intéressant parce qu'elle est toujours là.
Ah, toujours, ça fait 11 ans qu'on est ensemble. Ouais. 11 ans qu'elle dérouille aussi à mes côtés, parce que les aventures, on en parle comme ça, mais traverser la Manche, c'est 2 ans d'entraînement, c'est 4000 km de natation en 2 ans, c'est manger, dormir, nager pendant 2 ans. Et ça, ça a été compliqué.
Et donc, elle doit être là quoi, au garde à vous
malheureusement, oui. D'ailleurs, je suis en train de lire ce qu'elle est en train d'écrire, parce qu'elle est en train d'écrire son livre en ce moment, qui va sortir avant les fêtes. Je pense que ma carrière va s'arrêter une fois que son livre va être sorti. Parce qu'elle raconte la véritable histoire de Philippe Croizon.
C'est-à-dire Philippe Croizon n'est pas un type toujours sympathique, adorable, affectueux comme je pensais
qu'on
l'était.
On va dire que quand il a une idée en tête, il faut atteindre l'objectif. Et ceux qui sont autour, il faut qu'ils avancent, malheureusement. Enfin, malheureusement, j'en sais rien. Mais c'est vrai que c'était très, très dur ces 2 années. C'était vraiment très, très compliqué. Et même 4 ans, parce qu'après, on est parti pour relier 5 continents à nage. Mais ça, je vous laisserai le découvrir dans son livre qui va être normalement intitulé... Ma vie pour deux.
Mais ça, c'est un caractère assez partagé par tous les sportifs de haut niveau.
Ouais, il n'y a pas de choix.
Tous les grands aventuriers.
Il n'y a pas de choix, parce que l'objectif est tellement fou. Enfin, moi, quand je voulais traverser la Manche, rouler sur un continent, être pilote sur le Dakar, je dirais que 99% des gens m'ont dit « mais c'est pas possible ». Arrête de rêver, tu ne peux pas faire ça. Mais pour qui tu te prends? Mais t'es dingue, t'as pas de bras, pas de chance. Tu n'as pas traversé la Manche à la nage. Arrête, Philippe. Arrête d'avoir ce rêve de dingue. Et moi, j'ai monté cette équipe-là et on a atteint cet objectif où 99% des gens n'y croyaient pas. Et le 1% qui y croyait, c'était mon équipe et moi. Et on a été au bout. Et on a montré aux autres, qui étaient pessimistes, que tout est jouable dans la vie.
Parce que vous n'étiez pas spécialement sportif.
Pas du tout. J'avais jamais fait sport de ma vie. J'avais 40 ans. Ah non, jamais.
C'est-à-dire que moi, par exemple, s'il m'arrive une tuile comme ça, je pourrais devenir sportif un jour.
Il n'y a pas de raison.
J'ai jamais été.
Je vous jure, j'ai jamais...
non plus.
J'ai jamais été sportif. J'avais 40 ans. J'ai végété pendant ce canapé. J'étais un sportif canapé, quoi.
Ouais.
Et j'ai monté l'équipe et je leur ai dit « transformez-moi, c'est vous les professionnels, transformez-moi ».
Alors j'ai posé un sujet de réflexion au tout début du récit, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je me suis dit en écrivant votre histoire que s'il n'y avait pas eu cet accident, il n'y aurait probablement pas grand-chose à raconter. Qu'est-ce que vous seriez aujourd'hui? Métallo?
Certainement ouvrier métallurgiste, ouais.
Dans le Poitou?
Dans le Poitou, ouais.
Ouais.
Ah ouais, complètement.
Votre vie aurait été moins riche?
On ne peut pas savoir ce qui serait passé. Peut-être qu'il y aurait eu un coup du destin, d'autres choses. Mais voilà, ma vie, elle a eu ce coup du destin, cet accident, cette reconstruction. Et aujourd'hui, voilà, j'ai envie de montrer que c'est jouable. J'ai juste envie de montrer que c'est jouable.
Ma question, c'est est-ce que cette vie d'aujourd'hui est la plus intéressante?
Ah ouais, je l'aime. Ah ouais, je l'adore. Ah ouais, c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Si on me redonnait mes bras et mes jambes, je ne retourne pas à ma vie d'avant, c'est sûr et certain.
Ah bon?
Ah non, j'en veux pas. J'en veux pas, non. Non, mais c'est sûr, c'est vraiment sérieux. C'est vraiment sérieux. Si vraiment, demain, on me dit, on te redonne tes bras et tes jambes, mais par contre, tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, tu retournes à ta vie d'avant, mais c'est non. Mais non, à 1000%. J'aime ma vie d'aujourd'hui, elle est riche. Ma vie est riche aujourd'hui. J'aime ce que je fais. J'aime aller à la rencontre des gens. J'aime donner des conférences. J'aime écrire des livres. J'aime ce que je fais. Enfin, totalement bouleversé ma vie. Ça a été dur pendant 10 ans, mais aujourd'hui, j'aime ce que je... Ouais, j'en suis fier, je l'ai dit tout à l'heure, mais j'en suis vraiment fier. Et fier de tous ceux qui m'ont entouré.
Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'à 26 ans, on n'a pas fini sa vie.
Ah non.
À 26 ans, on peut redémarrer une autre vie. À 26 ans, on peut encore cultiver son cerveau. On peut encore progresser. On peut devenir un type qui est à l'aise sur scène. Un type qui entraîne des gens derrière lui.
On a tous cette énergie-là. Et même si on est en échec scolaire, même s'il nous arrive des grosses tuiles dans la vie, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Et c'est vrai que j'encourage toujours les gens à dire « Ok, t'as le droit de pleurer, t'as le droit de craquer. » Même moi, aujourd'hui, j'en ai besoin des fois de pleurer. J'ai besoin. Dans tous mes entraînements, j'ai besoin de chialer. Vous l'avez très bien dit tout à l'heure, c'est mon mode de fonctionnement. J'ai besoin de craquer avant coup, de vider toute cette mauvaise énergie, de pleurer. Même pour vous dire, je mets de la musique, je mets Starmania dans mes oreilles, ouais. Je m'en vais dans les bois, je chiale avant coup. Quoi. Je mets le monde des Stones et ça y est, je l'éclate en sanglots. Et après, je repars à l'entraînement. Mais ça, c'est mon mode
de
fonctionnement.
Le monde des Stones vous fait chialer.
Ah ben, complètement, ouais. Ça, c'est la chanson qui me fera chialer à chaque fois parce que. Je suis un fan inconditionnel de Starmania. Ouais. J'adore cet opéra rock et à chaque fois il y a des chansons qui me font craquer. Ouais. Et vu que j'en ai besoin et des fois j'arrive pas à pleurer tout seul, je mets la musique et c'est parti. On chiale avant coup.
Ben on la met, tiens. On la met et c'est parti. Et puis vous avez qu'à chialer maintenant. Dites-moi juste une chose avant de finir. Qui serait la cerise sur le gâteau? Dites-moi qu'il y a des fois où vous êtes encore au fond du trou.
Ah oui, bien sûr, ça arrive. Bien sûr que ça arrive. Il n'y a pas de super-héros. Franchement, j'ai horreur de ce terme-là du super-héros. Je suis juste un mec qui a bossé. Je suis juste un mec qui a bossé comme un taré pour atteindre son objectif et atteindre son rêve. Vous savez, moi, ce qui m'a fait tenir pendant 2 ans pour traverser la Manche à un âge, c'est ce que je disais à Suzanne à chaque fois. Je disais, si on va au bout, on va changer notre vie.
Et voilà. Merci Philippe Croizon, merci infiniment. Ce livre est là, disponible pour qui veut le lire et faire le plein d'énergie. Il s'appelle « J'ai décidé de vivre », vous le trouverez dans la collection Pocket. Demain, je vais vous raconter une histoire drôle, l'histoire de la dissolution de l'Assemblée nationale en 1997 par Jacques Chirac et qui se conclut par la victoire des socialistes. Lionel Jospin devient Premier ministre. Quelle mouche a piqué Chirac? On va bien rigoler demain. Je serai avec deux journalistes pour le débrief, Jean-Michel Apathy et Guylaine Ottenheimer. À suivre sur Europe 1, Olivier Delacroix. Ça sera juste après les infos. Je vous souhaite de passer une très bonne après-midi.
Très bon après-midi Christophe, c'était On de la Traconte que vous retrouvez demain à 14h. Dans un instant en effet, on partage vos expériences de vie avec Olivier Delacroix jusqu'à 15h qui s'interroge ce mercredi sur les enfants précoces. Alors on vous attend 3921 sur Europe 1.